Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Raison gardée sur RCN. Pour poursuivre, j'espère que vous l'avez écouté ou écouté un podcast, notre petite vision historique de l'école publique et de ses relations avec l'école privée. Avec moi à nouveau pour m'aider à aborder cette perspective historique, Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Alors, nous en étions restés la fois précédente à la loi Fallou contre laquelle Victor Hugo avait essayé de s'opposer et on avait écouté les grandes lignes du discours porté par Victor Hugo. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons passer, disons, de Duruy à Savary, au moins ça rime. Duruy, oui, Victor Duruy. Qui se souvient de Victor Duruy qui a été sous le Second Empire, en 1863 notamment, ministre de l'Instruction publique. Il était apprécié de Napoléon III, qui avait envie d'écrire une histoire sur Jules César, et il avait consulté cet historien, Victor Duruy, qui pourtant lui était vraiment un républicain. Et estimant Victor Duruy, Napoléon III lui propose ce ministère qui s'appelait l'instruction publique à l'époque. Victor Duruy, eh bien, à ce poste, à partir du moment où il a été nommé, et jusqu'en 1869, essaye de porter un projet assez ambitieux d'un enseignement laïque, gratuit et obligatoire, qui inspira ensuite quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Jules Ferry. Alors, Duruy a, par une loi, contraint les communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école primaire pour les filles, et il a tenté aussi d'ouvrir l'enseignement secondaire public aux filles, malgré l'opposition des congrégations religieuses qui étaient attachées à leur monopole, justement concernant l'instruction destinée aux filles. Alors il a essayé dans différentes villes d'ouvrir ce qu'on appelait des cours secondaires pour les filles de plus de 12 ans, pour qu'elles y apprennent le français, l'histoire, la géographie et un petit peu de sciences naturelles. Et il avait créé aussi, en 1863, un enseignement secondaire dit spécial, qui correspond en fait à un enseignement technologique, parce qu'il s'est rendu compte que les jeunes personnes en avaient besoin pour réussir à entrer dans les entreprises, puisqu'on nous sommes bien sûr dans une ère désormais industrielle. Donc voilà, ce Duruy, il est quand même laïque et assez ambitieux pour l'instruction des garçons et des filles, donc il me paraissait important de le nommer. Mais évidemment, celui qu'on connaît bien tous, c'est Jules Ferry, grand défenseur de la République laïque et universelle, un Vosgien, un ancien avocat qui s'était engagé aussi dans le journalisme avant de faire de la politique, et qui avait été élu député républicain en mai 1869, donc sous le Second Empire. Il participe à la formation du gouvernement provisoire qui installe la Troisième République à la fin de 1870, et il est élu maire de Paris. Il est athée, il est franc-maçon, et donc très très clairement républicain, et il devient le chef de l'opposition parlementaire dans l'Assemblée nationale, qui est encore dominée par une majorité plutôt monarchiste. Il entre au gouvernement, sous la présidence du républicain Jules Grévy, comme ministre de l'Instruction publique. Et il promeut donc les lois en 1881, et 1882 pour un enseignement primaire gratuit, laïque, obligatoire, pour concurrencer très clairement les congrégations religieuses qui étaient très actives dans ce domaine, donc depuis cette loi Fallou, votée en 1850. Il est épaulé dans son projet par un jeune protestant qui s'appelle Ferdinand Buisson, et qu'il nommera à la direction de l'enseignement primaire. Ferdinand Buisson participe aussi à la fondation de la Ligue des droits de l'homme, que nous connaissons toujours aujourd'hui, et il a contribué aussi à la rédaction de la loi de séparation des églises et de l'État. Un texte de Jules Ferry est très connu. C'est une lettre adressée aux instituteurs le 17 novembre 1883. Ces instituteurs qui seront surnommés les hussards noirs de la République. Il y expose sa conception de la mission des instituteurs, et de la morale républicaine qu'ils doivent défendre. Mais pour lui, c'est une morale qui est quand même assez mesurée, assez consensuelle finalement, et qui peut nous paraître finalement moins militante que ce qu'on pouvait penser. Puisqu'il dit par exemple, si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Donc il y a, même s'il y a quelque chose de partisan et de militant dans la démarche de Jules Ferry, il y a la volonté, dans le cadre de l'école, de ne pas heurter les familles. Il faut dire que l'enjeu, c'est aussi d'obtenir que les enfants viennent à l'école, ce qui n'est toujours pas simple dans une France qui reste très rurale et où les enfants servent de main d'œuvre. En revanche, dans les lois portées par Jules Ferry, on voit très clairement qu'il se donne les moyens de développer l'école publique et d'essayer de réduire l'influence des enseignements pris en charge par le privé. En 1880, Jules Ferry a pris deux décrets par lesquels il ordonne aux jésuites de quitter l'enseignement dans les 3 mois. Et il donne aux enseignants des congrégations catholiques non autorisées le même délai pour se mettre en règle avec la loi, c'est-à-dire repasser sous un contrôle de l'État, ou quitter aussi l'enseignement. Alors il y aura des expulsions assez radicales et sans ménagement excessif, on va dire, de plusieurs centaines de congrégations. Et il faut le dire aussi, à ce moment-là, quelques municipalités qui ont exprimé leur anticléricalisme de façon très zélée ont même expulsé des religieuses qui, elles, étaient dans les hôpitaux et qui, elles, n'avaient pas demandé autant. Donc, on sent qu'il y a quand même un activisme politique à ce moment-là de l'histoire et dans les débuts de cette Troisième République. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'idée c'est de former des citoyens instruits, c'est sûr, mais aussi du bon petit républicain. Et dans certains journaux à tendance anarchiste, on retrouve parfois des dessins qui renvoient dos à dos, d'un côté le prêtre, de l'autre l'instituteur républicain, comme étant finalement deux façons de vouloir imposer une façon de penser et une morale religieuse pour l'un et une morale, en quelque sorte, républicaine pour l'autre. Donc la contestation même du projet se pose du côté des défenseurs d'une conception vraiment de l'instruction comme voulant être très émancipatrice et qui ne voit pas toujours d'un très bon œil donc, le développement de cette école républicaine telle qu'elle est conçue par Jules Ferry. Alors, évidemment, nous sommes dans une période de l'histoire où la France se laïcise, et bien sûr, la grande loi qui sera établie ensuite, c'est la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Pour autant, ce qu'on appelle souvent la guerre scolaire ne s'achèvera pas là. Et ce qui très souvent déclenche à nouveau des guerres scolaires, ce sont des querelles portées dans les journaux à propos du contenu des manuels. Parce qu'évidemment, qui dit instruction laïque, obligatoire et gratuite, dit aussi publication de manuels. Or, très souvent, le clergé s'exprime pour contester le contenu de certains manuels. Et il y a parfois des petites affaires comme ça qui font la une des journaux. Alors il y en a une, par exemple, en 1907, c'est l'affaire Morisot, c'est un père de famille qui porte plainte contre un instituteur en Côte d'Or parce que, dit-il, il a tenu devant sa classe des propos antipatriotiques et antireligieux. Alors qu'aurait dit cet instituteur ? Il aurait dit: les soldats français sont des voyous et des lâches. Ou bien les Allemands ont bien fait en 1870 de tuer les enfants au berceau. Ou encore ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles. Il ne faut pas se confesser auprès du curé, mais auprès de ceux à qui vous avez fait du tort, et ou encore le bon Dieu, c'est un porte-monnaie bien garni. Voilà, on trouve toutes ces formules dans la plainte de ce père de famille. Alors évidemment, la justice se met en route, ça va jusqu'à la cour d'appel de Dijon, qui se déclare compétente pour juger l'affaire. Alors, le problème, c'est que l'État, le gouvernement, va considérer que l'instituteur, en tant que fonctionnaire, doit être poursuivi devant une juridiction administrative. Et en fait, l'État va commencer à réfléchir à une façon de protéger ses fonctionnaires en quelque sorte. Et le tribunal reconnaît qu'un instituteur public qui tient dans sa classe des propos violant gravement la neutralité scolaire en matière religieuse se rend coupable à raison de la nature de ses propos et des circonstances dans lesquelles ils sont émis, d'une faute personnelle engageant sa responsabilité pécuniaire vis-à-vis des pères de famille et relevant de l'autorité judiciaire. Mais dans d'autres cas, la violation de la neutralité religieuse pourrait constituer une faute administrative, engageant non plus la responsabilité personnelle du maître, mais la responsabilité de l'État. Donc il y a un problème qui se pose de savoir à qui incombe la responsabilité de ce qui a été dit par cet enseignant. En 1908, c'est Gaston Doumergue, ministre de l'Instruction publique, qui relance un peu une politique qualifiée par certains d'anti-religieuse du gouvernement pour ce que lui appelle la défense laïque. Par exemple, il vise à mettre à l'amende les parents qui ne voudraient pas que leur enfant reçoive tout ou partie de l'enseignement obligatoire à l'école, même si cet enseignement peut avoir à leurs yeux un caractère anti-religieux, par exemple. Donc on voit bien là qu'il y a une offensive. On pourrait faire comme ça l'énumération de plusieurs affaires de ce genre. On voit bien que l'État réfléchit à une façon de protéger ses fonctionnaires. Alors, on obtient à un moment donné une sorte de status quo, après des réactions assez vives de l'épiscopat français, qui, elle, communique avec les familles à travers des courriers, qui se plaint de ne plus pouvoir se tourner vers la justice efficacement contre un instituteur, parce que l'État décide de protéger ses fonctionnaires et donc forcément s'ils vont devant la justice, ben, ils se disent que l'État ne va pas se condamner lui-même, ce qui n'est effectivement pas complètement idiot. Et donc, voilà, on en reste à peu près là, alors on va dire vraiment à peu près, puisqu'il y a un nouvel épisode qui va raviver cette guerre scolaire après la Seconde Guerre mondiale, c'est la loi Debré. La loi Debré. Donc cette loi, elle est vue par l'historien Jean-Paul Scott comme ce qu'il appelle le dernier avatar de la loi Falloux. Cette loi donc des années 1830. Alors on rappelle que cette loi Falloux, elle reconnaissait officiellement la coexistence de deux types d'écoles, hein, une publique qui relève de l'État et des écoles libres fondées par des congrégations religieuses. Toutes les lois scolaires de la Troisième République avaient visé à séparer l'école et l'Église et à laïciser l'enseignement, avec des querelles particulières autour de l'université, mais nous n'entrons pas encore dans ces détails ensemble aujourd'hui. La fonction enseignante, donc on l'a vu, n'est plus une sorte d'activité individuelle, mais bien une fonction sociale, officielle, exercée au nom de la collectivité publique et au nom de l'État. Et on devient instituteur à partir d'une formation et de la reconnaissance de cette formation à travers des concours. La laïcité des programmes a bien été installée en 1882. Une loi organique de 1886 avait fondé le principe républicain de l'école. À l'école publique, les fonds publics. À l'école privée, l'école privée. Et un article 2 précisait les établissements d'enseignement primaire peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'État, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers et des associations. Donc on avait bien ce dualisme scolaire qui était admis, avec une distinction très très nette. Si on fait un petit peu le point avant cette loi Debré, en 1901, on a 85% des garçons et 75% des filles scolarisés dans des écoles primaires publiques à personnel laïque. Donc on voit bien qu'il y a une laïcisation qui est en marche. Régulièrement, donc la droite revient un peu sur cette question de la liberté de l'enseignement. Donc c'est une notion qui est régulièrement remise en débat. Et que se passe-t-il alors après la Seconde Guerre mondiale ? Eh bien, les catholiques du mouvement du Rassemblement populaire, le MRP, exigent la liberté d'enseignement. Il développe un argumentaire qui est le suivant. Un chef de famille a le droit absolu de confier l'instruction et l'éducation de ses enfants à l'école de son choix. Et pour eux, un catholique ne peut pas séparer l'instruction et l'éducation de la morale et de la religion. Leur deuxième argument consiste à dire que la liberté de penser implique la liberté d'enseignement. Ce sur quoi, d'ailleurs, à la libre pensée, nous sommes d'accord. La conception unitaire de l'école est liée à la conception du régime totalitaire. Par conséquent, la liberté de l'enseignement est liée à la formule de la démocratie libre. C'est un des arguments aussi qu'on entend. Et le dernier argument, c'est un objectif qui est fixé par l'Assemblée des cardinaux et des archevêques en 1946. Qui dit « La liberté de l'enseignement reconnue doit recevoir un statut qui assurerait les droits des familles, de l'Église comme de l'État, et des garanties suffisantes inscrites dans la loi en ce qui concerne le choix des maîtres, leur formation et l'éducation religieuse des enfants. » Donc voilà les revendications qui sont portées notamment par le MRP. Alors, dès 1945, ce parti tente de faire reconnaître, par l'Assemblée constituante, la liberté de l'enseignement comme un principe constitutionnel. Les communistes, les socialistes et les radicaux de gauche s'y opposent par 331 voix contre 221. Et la position des laïcs est très clairement formulée. Hein, l'enseignement ne peut être conçu comme l'exercice d'un droit individuel. C'est une fonction sociale. Enseigner n'est pas un métier, c'est une fonction sociale qui doit être organisée par la communauté dans un esprit de liberté. En matière d'enseignement, il n'y a qu'un droit véritable, celui de l'enfant, et le père n'a pas le droit d'imposer sa volonté à son enfant. L'État n'a pas le droit d'imposer une volonté à l'enfant. Ce que le père et l'État ont le devoir de donner à cet enfant est une formation qui lui permettra, lorsqu'il sera grand, de choisir librement sa vie et de définir ses propres idées. C'est donc au nom de l'émancipation de l'enfant à qui on donne une instruction que le clan laïque défend l'instruction gérée par l'État exclusivement, ou en tout cas le plus possible. Une seconde assemblée constituante rejette aussi la liberté de l'enseignement, mais avec une très très courte majorité. Et le MRP revient régulièrement sur cette question de la liberté de l'enseignement en voulant en faire un des principes fondamentaux de la République. Alors, la loi Debré est la première manière, par la loi en fait, hein, d'introduire cette idée d'une liberté d'enseignement qui ouvre la voie à l'école privée. L'article 1er stipule en effet « L'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés. » Donc, une fois que ceci est posé, évidemment, eh bien, il y a tout le cadre nécessaire pour ce développement. Alors, l'historien que je nommais tout à l'heure, Jean-Paul Scott, se demande si l'enseignement privé était avant cela condamné finalement à terme, étant donné tout le processus qui, depuis la fin du 19e siècle, avait permis le développement de l'enseignement public. Il voit effectivement quatre raisons pour lesquelles on peut penser que l'enseignement privé était quand même compromis avant la loi Debré. La première raison, dit-il, c'est que la gratuité du secondaire public s'était généralisée dans les années 1930, et donc c'était une offre d'enseignement public très importante qui faisait très nettement concurrence à l'enseignement que pouvait être proposé par certaines congrégations. Le deuxième argument qu'il avance, c'est le déclin des vocations religieuses. remarqué dès le début du XXe siècle, et la sécularisation des écoles confessionnelles, qui finissait par conduire au recrutement d'enseignants laïcs salariés. Donc, il y avait moins de personnel dans l'enseignement confessionnel. La troisième raison qu'il présente, c'est celle d'une inflation galopante, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale et après, qui avait ruiné les donateurs traditionnels de l'école privée. Donc, comme ces écoles fonctionnaient sur des financements privés, eh bien, s'il y a moins de donateurs, voilà, ces écoles sont en difficulté. Et puis enfin, il y avait quand même historiquement ce qu'avaient été les rapports entre Vichy et l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisait que l'Église avait conscience d'avoir pris...
Fauté,
voilà, pris mauvaise option. Et l'Assemblée consultative avait abrogé toute une série de subventions qui avaient été accordées à l'Église par le régime de Vichy. Donc là aussi, une perte de revenus. Donc l'enseignement privé ne pouvait pas vraiment continuer à vivre par les seules contributions de parents d'élèves. Alors, on y trouva encore quand même un certain nombre, en particulier dans le secondaire, d'enfants instruits. Mais on pouvait constater quand même une perte de vitesse de cet enseignement. Or, il était difficile aussi, peut-être financièrement pour l'enseignement public, d'absorber complètement les effectifs de l'enseignement privé dans un pays qui était quand même en difficulté financière après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le programme du Conseil national de la Résistance lui-même n'avait pas fixé vraiment pour objectif la nationalisation de l'enseignement. Mais il avait quand même stipulé qu'il fallait viser la possibilité effective pour tous les enfants de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents. Donc, il avait quand même bien répété l'exigence d'instruction gratuite pour tous, et donc l'objectif d'une démocratisation de l'enseignement, sans pour autant trouver un accord sur la question de la nationalisation totale des structures dans lesquelles les enfants recevaient une instruction jusque-là. Donc voilà, la loi de Bray est donc votée. Et puis il y aura une dernière grande bataille scolaire. C'est le projet Savary qui va mettre dans la rue des défenseurs de l'école dite libre, en fait, donc de l'école privée avec ou sans contrat, hein, puisqu'il existe deux formes d'enseignement privé. Et ce projet Savary, Charles, il était inscrit...
Dans le programme commun de gouvernement des partis de gauche, donc le Parti socialiste, le Parti communiste français et le mouvement des radicaux de gauche, versant 1977, propose en son point 2... un grand service public, national et laïque, la nationalisation, tous les secteurs de l'enseignement initial et d'une part importante de l'éducation permanente seront réunis dans un seul service public, laïque, dépendant du ministère de l'Éducation nationale. Les établissements privés, qu'ils soient patronaux, à but lucratif ou confessionnel, percevant des fonds publics seront en règle générale nationalisés. Donc en 84, on a vu que la loi Savary, qui est datée de 22 mai 1980, a reculé devant le parti clérical, faut dire ce qui est de l'époque, et a donc abandonné cette loi au profit, bien sûr, l'enseignement privé a repris ses droits, quoi, et sinon pire, puisqu'il a été un peu accentué par les lois Langloupet, Jospin, Canard, Minkouche, et puis c'est terminé, ça s'est mal terminé pour l'école publique. Et en ce moment, il y a un gros débat avec ça, avec l'école Stanislas.
Oui, l'école Stanislas. Quelle école Stanislas? Celle dans laquelle notre ministre de l'Éducation nationale a placé ses enfants?
Paraît-il, oui. Ça fait pas mal de mousse en ce moment, mais bon, ça prouve bien quand même qu'il y a On veut quand même séparer et sélectionner quand même par ces écoles-là. On sélectionne une partie de... Les enfants ne sont pas tous égaux devant l'enseignement et la République faillit à son devoir.
Alors, effectivement, ce qu'on a découvert sur ce lycée soulève deux problèmes. D'une part, des établissements privés sous contrat qui ne doivent pas imposer l'instruction religieuse sur l'emploi du temps des élèves, alors que manifestement c'est le cas, qui doivent respecter les valeurs de la République dans les discours qui sont tenus aux élèves, ce qui n'est pas le cas. Mais on peut aussi, si on jette un œil dans le rapport de l'inspection générale, observer qu'il y a des moyens supplémentaires et que les élèves de seconde, par exemple, ont des heures de français en plus, de maths en plus, des options obligatoires, etc., dont les financements, là je n'ai pas le détail, mais doivent interroger. Et effectivement, il y a une inégalité quand même entre les élèves. Donc finalement, le combat reste encore à
d'actualité.
Mener. Et il reste d'actualité, sans aucun doute. Mais bon, il faut reconnaître que tous les commentateurs disent que cette loi Savary, l'opposition à la loi Savary, avait mis un énorme coup d'arrêt à ce combat. C'est peut-être l'occasion de le reprendre, en tout cas d'en reparler, d'interroger à nouveau ce fonctionnement de l'école et la séparation entre les écoles publiques et les écoles privées, pour mettre tous les moyens, bien sûr, dans l'éducation et l'instruction de tous les jeunes. Merci de nous avoir écoutés, je vous dis à très bientôt et nous finissons en chanson, une petite chanson, elle est sympa, d'Aldebert, La vie d'écolier. C'est pas simple, la vie d'écolier.
7h30 en chiffres rouges illumine la nuit. J'entends lève-toi et bouge. Aujourd'hui c'est lundi. Pour remuer les fesses, il me faut serrer les dents, conjurer les menaces d'une journée sans écran. Je trouve pas la deuxième chaussette, en plus on a piscine. J'ai coincé ma braquette et brûlé mes tartines. Si je simulais un rhume pour m'acquitter de ce fardeau, autant qu'on a mis une enclume dans mon tout petit sac à dos. J'ai perdu mes pinceaux, oublié la table de 8. Dehors il pleut à saut, j'ai le blues au zénith. On devrait payer les bambins qui vont à l'école à pied, rayer les lundis matins du calendrier. Ça nous fait les bonnes journées, tu vois. D'écolier, c'est pas ce qu'on croit, non. Joie, liberté, rire et nirvana. La vue d'écolier, non, c'est pas ça. À la récré, je me débine et me confonds louange. Pour éviter le gros Kevin et ses tartes aux phalanges. La cantine est un cauchemar, certifie de Bruxelles à l'ail. C'est un laboratoire dont nous sommes les cobayes. C'est un de nouveaux bourreaux pour nous tenir en laisse. On fait leur entrée au tableau, Pythagore et Thalès. Je n'en fais de mal, faut qu'on me mette en tête. Conjonction, pronominale, circonstance et l'épithète. Sachant qu'une vie noire se remplit en 800 secondes et demie, qu'il faut 120,3 cerises pour un bon clafoutis. Que le train A
passe le train B
à 6h10
en gare de Rennes.
On déduit à l'aventure du coiffeur du fils du capitaine. Ça nous fait des bonnes journées, tu vois. La vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit, non. Joie, liberté, la vie d'écolier, non, c'est pas ça. Moi je pense à la mer, au silence, ne rien faire. Les vacances, prendre l'air, l'insouciance, l'éphémère. Chant lexical, dénominateur. Photosynthèse, antiquité, récitation, renaissance. Triangle grec en trapèze, participe à ces cartes de France. Homme des Néandertals, infinitif, ferrec de trois. Léonagien, capital, transitif, que j'ai, pas loin. Commandement de François premier, Union européenne. Pourcentage plus que parfait, éducation citoyenne. Y a de quoi rester quoi quand j'entends ma famille clamer que je vis là les plus beaux moments de ma vie. Fais des bonnes journées, tu vois. La vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit, non. Joie, liberté, rire et nirvana. La vie d'écolier, non, c'est pas ça. Et ça nous fait des bonnes journées. T'as vu? La vie d'écolier.
c'est simple, finalement, on n'aura pas de devoir. Pas de cartable à porter. On pourra faire du bruit dans les couloirs. On pourra danser, on pourra chanter, on pourra faire n'importe quoi. Voilà, c'est le programme pour enfants d'âge de mes dames. Merci beaucoup.